Chapitre 35. Le samedi 16 juillet fut aussi sombre que peut l'être un jour d'été dans l'Illinois. Les lampadaires d'Elmhaven, qui se réglaient automatiquement en fonction de la luminosité, s'éteignirent à 5h30 pour se rallumer 2 heures plus tard. Monsieur Meyers ouvrit sa quincaillerie à 9h et fut surpris de trouver devant sa porte 4 garçons. Les petits Stewart, le fils de Ken Grumbacher, et un autre gosse avec un bras en écharpe. Ils lui achetèrent des pistolets à eau, 3 chacun, après avoir pris le temps de choisir les jouets de meilleure qualité avec les plus grands réservoirs. Monsieur Meyers trouva cela bizarre, mais en cet an de grâce 1960, tout lui semblait bizarre. Les choses étaient plus normales quand il avait ouvert son magasin dans les années 1920, à l'époque où les trains passaient tous les jours et où les gens se conduisaient encore en personnes civilisées. Les garçons partirent à 9h30 sans un mot d'adieu après avoir rangé leurs achats dans des sacs de marne. Ce même samedi, Mike fut interrogé à plusieurs reprises, d'abord par Barney, puis par le shérif du comté, et même par la brigade mobile qui envoya 2 de ses agents dans une longue voiture brune. Ces temps-ci, Barney et le shérif s'étaient heurtés à bien des énigmes. Les accidents dont Art McBride et Duane avaient été victimes en des circonstances quelque peu mystérieuses, la mort naturelle de Madame Moon au milieu de ses chats massacrés, la découverte dans le silo du shérif Congdon, dont le cadavre carbonisé était presque, mais pas tout à fait, impossible à identifier et à qui, selon le coroner, on avait tranché la gorge. La récupération dans la cabine de l'épave du camion d'écarissage d'un corps, non identifiable directement, mais que l'on reconnut grâce à une dent en or, les restes d'un chien inconnu trouvés également dans le camion. La rumeur avait déjà trouvé un motif à l'assassinat de Congdon. Une altercation entre lui et Van Syck, sans doute à propos du partage des sommes acquises grâce aux escroqueries perpétrées par Congdon, un règlement de compte, un meurtre sauvage. Puis, lorsque Van Syck avait arrosé le silo d'essence avant d'y mettre le feu, l'incendie accidentel du camion, la fuite du criminel n'osant pas abandonner son véhicule sur les lieux du crime de peur d'être démasqué, l'explosion du réservoir. Le samedi à midi, tout était clair pour les habitants d'Elmhaven, sauf le cadavre du chien. Van Syck détestait ses bêtes et personne ne l'avait vu en tolérer un auprès de lui, à plus forte raison dans son camion. Mais Madame Whittaker, alors dans le salon de coiffure de Church Street, tira la conclusion qui s'imposait. Le molosse de Congdon ayant disparu quelques semaines plus tôt, il était évident qu'il avait été kidnappé par ce bon à rien de Van Syck. Comme cela faisait des dizaines d'années qu'il n'y avait pas eu de véritable meurtre à Elmhaven, les habitants étaient à la fois bouleversés et enchantés. Surtout enchantés d'ailleurs maintenant que l'on savait qui était responsable du carnage des chats de la vieille Madame Moon. Il fut plus difficile de faire entrer dans ce brillant canevas le décès par accident du père Cavanaugh. Madame McCafferty avoua à Madame Somerset, qui le raconta plus tard au téléphone à Madame Sperling, que le prêtre lui avait souvent paru un peu bizarre. Il ironisait parfois sur sa vocation et il allait jusqu'à appeler « Papa Mobile » le véhicule du diocèse. Lors de la kermesse de l'église baptiste, Madame Meyers, présidente du club des dames de confession luthérienne, chuchota à Madame Meehan qu'il y avait des cas de démence dans la famille du père Cavanaugh. D'ailleurs, il était d'ascendance écossaise et irlandaise, c'était tout dire. De plus, on savait aussi que les autorités ecclésiastiques de Chicago l'avaient exilé à Elmhaven à la suite de certains comportements étranges. Il avait dû jouer les voyeurs, entrer par effraction dans les maisons et probablement tuer les chats pour pratiquer quelques sinistres rituels catholiques. Madame Whittaker demanda à Madame Staffney si les catholiques n'utilisaient pas des chats noirs pour certaines cérémonies secrètes et celle-ci, devant Madame Taylor, avoua qu'en effet, on disait qu'autrefois... En échange, l'épouse du croque-mort raconta que le visage du jeune prêtre avait été écrabouillé et épluché par la calandre du pick-up de M. McBride et que le père Cavanaugh était le plus mort de tous les morts dont son mari n'ait jamais eu le solennel devoir de s'occuper. L'évêque en personne appela le samedi matin de Peoria pour ordonner au croque-mort d'envoyer le corps tel quel à Chicago afin qu'il soit remis à la famille. Ce qui n'empêcha pas M. Taylor d'ajouter à sa facture des frais de maquillage puisqu'il était impossible de le présenter ainsi au sien avec un visage tout explosé de l'intérieur, selon les mots du spécialiste rapportés par son épouse à Madame Whittaker. Quoi qu'il en soit, tout le monde était sûr que le mystère était résolu. Carl Van Syk, dont semblait-il tous s'étaient toujours méfiés, avait assassiné le pauvre shérif à la suite d'une sordide querelle d'intérêts. Et le père Cavano, que tous les protestants et un bon nombre de catholiques avaient toujours trouvé excessif, avait eu une crise de folie et il était venu attaquer son enfant de cœur Mike O'Rourke avant de se jeter sous un camion. Les habitants du bourg caquetèrent, les lignes téléphoniques grésillèrent, tout le monde se fit un plaisir d'avancer des hypothèses, tout en surveillant du coin de l'œil les nuages noirs qui s'amoncelaient au-dessus des champs de maïs. Le shérif du comté ne fut pas aussi facilement convaincu que tout était résolu. Après déjeuner, il revint interroger Mike pour la troisième fois depuis la veille au soir. « Le père Cavano a parlé à ta sœur ?»«
Oui, monsieur. Elle m'a dit que le père voulait me voir, que c'était important. »
Mike savait très bien que le shérif avait aussi interrogé Peggy à deux reprises.
« Il lui a dit de quoi il s'agissait ?»«
Non, monsieur, je ne crois pas. Vous feriez mieux de le lui demander.
» fit-il en parcourant ses notes, qu'il prenait dans un petit carnet à spirale.
« Comme ceux de Duane. »
« Répète-moi ce qu'il t'a raconté. »«
Eh bien, monsieur, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas compris grand-chose. Cela ressemblait aux paroles de quelqu'un qui délire. Les phrases et les mots avaient un sens, mais ça n'allait pas ensemble. »
« Donne-moi un exemple, fiston. »
Mike se mordit la lèvre. Duane lui avait une fois expliqué que la plupart des criminels se coupent et démolissent leurs alibis en voulant en faire trop. Les innocents, avait précisé Duane, restent bien plus vagues.
« Eh bien, je crois qu'il a plusieurs fois parlé de péché. Il a dit que nous avions péché et que nous devions être châtiés. Mais je crois qu'il parlait plus des gens en général que de nous deux. »
Le shérif acquiesça et écrivit quelques mots.
Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à crier.
Oui, monsieur.
Ta sœur a dit qu'elle vous a entendu parler ensemble. Si tu ne comprenais pas ce que disait le père Cavano, pourquoi tu lui as répondu ?
Mike résista à l'envie d'essuyer la sueur qui perlait à sa lèvre supérieure.
J'ai dû lui demander comment il allait. Je veux dire, la dernière fois que je l'avais vu, mardi, quand Madame McCafferty m'a laissé monter un instant, il était très malade.
Et il t'a répondu qu'il était guéri ?
Non, monsieur, il s'est mis à crier que le jour du jugement dernier approchait.
Puis, il est sorti de la véranda en courant et il s'en est pris à la fenêtre de la chambre de ta grand-mère, c'est ça ?
Oui, monsieur.
Le shérif se gratta le menton. Quelque chose le tracassait encore.
Et son visage, fiston ?
Son visage ? Tiens, une nouvelle question.
Oui. Tu ne l'as pas trouvé bizarre, blessé ou déformé d'une manière ou d'une autre ?
Non, monsieur, je ne crois pas. J'ai juste vu qu'il était très pâle, mais il ne faisait vraiment pas clair.
Tu n'as pas vu de cicatrices, de lésions ?
Qu'est-ce que c'est, des lésions, monsieur ?
Des égratignures profondes, des plaies.
Non, monsieur.
Le shérif soupira et fouilla dans un petit sac.
C'est à toi, ça, fiston.
Il lui montra le pistolet à eau. La première impulsion du garçon fut de nier, mais il répondit.
Oui, monsieur.
C'est ce que ta sœur nous a dit aussi. Tu n'es pas un peu grand pour jouer avec un pistolet à eau ?
Mike haussa les épaules et arbora un air gêné.
Tu l'avais avec toi sous la véranda hier soir quand tu as parlé au père Cavano ?
Non.
Tu en es sûr ?
Oui, monsieur.
On l'a trouvé sous la fenêtre.
Il repoussa son chapeau en arrière et sourit, pour la première fois depuis le début de l'interrogatoire, avant d'ajouter.
Ah, je dois devenir paranoïaque en vieillissant. J'ai demandé au laboratoire de la police d'Oakhill d'analyser le contenu du réservoir. De l'eau. Rien que de l'eau.
Mike rendit à l'homme son sourire.
Tiens, fiston, reprends ton jouet. Il n'y a pas autre chose que tu pourrais m'apprendre ? D'où vient ceci, par exemple ?
Fit-il en montrant le chapeau de brousse du soldat.
Je ne sais pas, monsieur. Peut-être que c'était dans les buissons. Le père Cavano le portait quand il a arraché la moustiquaire.
C'est ce même chapeau que tu as déclaré avoir vu sur un soldat qui vous espionnait il y a quelque temps.
Sans doute, monsieur, mais je n'en suis pas sûr.
C'est le même genre ?
Oui, monsieur.
Mais les autres fois où tu as vu ce voyeur dans votre jardin, tu n'as pas reconnu le prêtre.
Le shérif semblait surveiller attentivement les réactions de l'enfant.
Non, monsieur,
répondit enfin Mike.
Avant, j'aurais dit que ce n'était pas le père Cavanaugh. Il semblait plus petit, mais il faisait nuit et je regardais à travers les rideaux. C'est tout ce que je peux vous dire, monsieur.
Le shérif déplia ses longues jambes pour se lever et donna une tape amicale sur l'épaule de Mike.
« Ça ne fait rien, va, fiston. Merci de tes renseignements. Je suis désolé que tu aies été témoin de ce drame hier soir. On ne saura sans doute jamais ce qui s'est passé avec ce monsieur, le père Cavanaugh, je veux dire. Mais je doute qu'il ait eu l'intention d'agir ainsi. Que ce soit à cause de cette fièvre dont parlent les docteurs ou bien d'autres choses, je pense qu'il n'avait plus toute sa tête.
C'est ce que je crois aussi,
répondit tristement Mike en raccompagnant le shérif à la porte. Monsieur et Madame O'Rourke attendaient leur fils sous la véranda, et tous trois firent des signes d'adieu lorsque la voiture du shérif du comté de Crèvecœur tourna dans First Avenue.
Finissons-en cet après-midi,
déclara Harlaine une heure plus tard lors d'une conférence au sommet dans l'érable. Ils étaient tous là, sauf Cordy. Harlaine et Dale étaient allés la chercher à la décharge le matin même, mais ils n'avaient pas trouvé trace de la fillette, à part quelques vieilles couvertures sous une cabane de tôle près du talus de la voie ferrée. Mike soupira, trop fatigué pour discuter, et ce fut Dale qui répondit
« Jim, on a déjà ressassé tout ça. »
Kevin feuilletait un vieil illustré. Il le posa pour expliquer encore une fois
« On est bien obligé d'attendre demain matin. » Je ne peux pas voler le camion-citerne de papa juste sous son nez. Il faut qu'il croie que quelqu'un d'autre l'a pris pour arroser Old Central d'essence.
Harlaine eut un reniflement de mépris.
Et qui ? Tous les suspects crèvent à tour de rôle. On vit la semaine la plus merdique de toute l'histoire d'Elmaven, et on va bien découvrir, à un moment ou à un autre, qu'on est dans le coup.
Pas si tu fermes ta grande gueule,
rétorqua Dale.
Et c'est toi qui vas m'y obliger, Stewart ?
Les deux garçons s'affrontèrent du regard, comme deux coqs en colère. Mike intervint.
Du calme, hein ? Une chose est sûre, on ne va pas passer la nuit chacun dans son coin pour qu'ils nous descendent un par un.
Bien vu,
ricana Harlaine en s'appuyant à une branche.
Restons groupés. Comme ça, ils nous auront tous d'un seul coup.
Mike secoua la tête.
En deux équipes.
Mes parents veulent bien que j'aille dormir chez Dale et Lawrence. Ils pensent que j'ai besoin de me détendre après hier soir.
Les enfants ne relevèrent pas.
Harlaine, tu pourrais t'arranger pour passer la nuit chez Kevin ?
Ouais,
bien. Comme ça, on pourra garder le contact avec les Tokiwoki.
Dale arracha une feuille à une branche et dit en commençant à la déchiqueter
« Bonne idée.
Et dès qu'il fait jour, on remplit la citerne et on arrose l'école. D'accord ?»«
Exactement, »
approuva Mike.
« Grumbatcher, tu es sûr de savoir conduire le camion ?»
Kevin souleva les sourcils.
« Je te l'ai déjà dit, non ?»«
Ouais, mais je ne veux pas de surprise demain matin. »
T'en fais pas.
Mon père me laisse de temps en temps le volant sur les petites routes. Je sais passer les vitesses, mes pieds atteignent les pédales. Je peux l'amener jusqu'à l'école sans problème. Sors-le en douceur. Il faudrait pas réveiller tes parents.
Leur chambre est en contrebas par rapport à l'allée et la climatisation marche. Ça aidera.
Lawrence, qui n'avait encore rien dit jusque-là, demanda soudain
« Et vous croyez que ce machin dans l'école va se contenter d'attendre qu'on lui tombe dessus ? Que ça ne va pas se défendre ?»
« Ça s'est déjà défendu, »
répondit Mike.
« Mais les alliés commencent peut-être à se faire rares. »« On n'a pas pu trouver Rune, »
objecta Harlaine en grattant son plâtre. « On devait lui enlever d'ici quelques jours et les démangeaisons le rendaient fou. »«
D'après sa propriétaire, il est en vacances dans le Minnesota, »
expliqua Kevin. Ce fut un cœur de « ha-ha » sarcastique.
« Et le soldat traîne encore quelque part dans la nature. »« Sans compter la mère Fodder chez sa copine, les trucs qui s'enterrent et puis Toby. »
« Avec une main en moins, »
ricana Dale.
« Il nous fera pas de gestes obscènes. »
Personne ne trouva la plaisanterie drôle.
« Ça fait 7, »
dit Lawrence qui avait compté sur ses doigts.
« Mais nous, on n'est que 5. »
« Plus Cordy, de temps en temps. »«
Je compte pas les filles, »
rétorqua dignement Lawrence.
« Ils sont 7, plus la satanée cloche, et nous seulement 5. »«
Ouais, répondit Mike. Mais nous, on a une arme secrète.
Il tira de sa ceinture son pistolet à eau et éclaboussa le visage du petit qui crachota.
Hé, la gaspille pas ! T'en fais pas, ce n'est pas de l'eau bénite. Je la garde pour plus tard. Tu as l'autre truc ? L'espèce de pain ?
L'hostie, non.
Je n'ai pas pu m'en procurer, l'église est fermée. Heureusement que j'avais pris tout le reste de l'eau bénite.
Mais il y a le morceau que tu as laissé auprès de ta grand-mère ?
Lui rappela Dale.
Pas question, ça reste à côté de mes mots. Pas et à la maison ce soir. Mais je veux pas courir de risque.
Dale allait dire quelque chose, mais le « Kevin !» de Madame Grumbatcher retentit et ils descendirent en hâte de l'érable.
« À tout à l'heure, alors !»
cria Dale à son ami en courant chez lui avec Lawrence.